Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au micro Lévin Bouinga. Au sommaire, scène de pillage dans les entrepôts du programme alimentaire mondial à Goma. PAM Nord qui vous monte au créneau. Cet organisme des Nations Unies condamne fermement ces agissements car plusieurs tonnes de ces stocks alimentaires sont pillées. Des précisions avec le chargé de communication du PAM dans un instant. Un conflit foncier divise la ville de Kikwit et le territoire de Bulungu dans la province du Kwilu, lequel conflit risque d'occasionner des actes de violence entre les deux entités. À la base de cette altercation, les limites séparant les deux quantités. Jean-Jacques Wondo, homme libre, l'expert militaire belgo-congolais, a été relaxé hier mardi par la justice militaire. Il était poursuivi par la justice pour participation présumée dans l'affaire de la tentative de coup d'État manqué le 19 mai à Kinshasa. Pour parler de la libération de l'expert militaire Jean-Jacques Wondo, Radio Kapi reçoit son avocat Carlos Nguapichi. Ce sera dans quelques minutes. Encore une fois, bonjour. Scène de pillage des entrepôts du programme alimentaire mondial à Goma. Le programme alimentaire mondial Nord Kivu monte au créneau. Cet organisme des Nations Unies condamne fermement ces agissements d'une partie de la population ayant vidé plusieurs tonnes de ses stocks alimentaires à travers un communiqué rendu public hier mardi. Et pour cause, de nombreuses personnes vulnérables au Nord Kivu risquent de ne pas accéder à l'assistance alimentaire. Face à cette situation, le chargé de communication du PAM rappelle que l'assistance alimentaire du PAM contribue à prévenir et à répondre de manière adéquate aux besoins de protection de nombreux enfants, femmes et hommes. Claude Kalinga est joint par Onli Ntibonera.
Les stocks dérobés comprenaient des denrées vitales telles que de la farine de maïs, des petits pois, de l'huile végétale, du sel iodé, des haricots, des biscuits énergétiques ainsi que des compléments nutritionnels cruciaux pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes souffrant de malnutrition. Nous rappelons que ce pillage prive délibérément la population vulnérable de son droit fondamental à une alimentation adéquate. Chaque quantité de nourriture volée représente un repas en moins pour une famille qui en a le plus besoin. Nous rappelons également que les activités d'assistance alimentaire et de lutte contre l'insécurité alimentaire du PAM sont toujours menées dans le respect des principes humanitaires que sont l'humanité, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance opérationnelle et sans aucune forme de discrimination. Le PAM continuera à apporter son assistance aux personnes vulnérables dès que les conditions sécuritaires le permettront. Pour le moment, il a temporairement suspendu ses opérations.
L'actualité au Nord Kivu, c'est aussi cette série d'arrestations relevées dans la province. Au moins 6 cadres publics et acteurs des mouvements citoyens manquent à l'appel depuis plusieurs jours dans la ville de Goma. Parmi ces personnes, le coordonnateur provincial du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire et stabilisation et son conseiller principal disparu depuis jeudi 30 janvier. Des sources parlent des enlèvements par le rebelle M23 qui occupe la ville. Bernard Denyangi.
Clovis Mouniré, coordonnateur provincial du PDDRCS, et Thomas Dake Mouiti, son conseiller principal, auraient été interpellés par des présumés officiers de la rébellion du 23 jeudi 30 janvier dernier, alors qu'ils tentaient de traverser la frontière congolo-rwandaise pour aller s'exiler vers Beni, passant par le Rwanda et l'Ouganda, indiquent certaines sources sous couvert d'anonymat. Selon ces sources, les deux cadres publics seraient toujours en détention quelque part, mais leurs familles et collègues de service n'ont aucun contact avec eux. Il convient de mentionner que Thomas Dake Mouiti a été pendant plusieurs années président de la société civile du Nord Kivu et a été parmi ceux qui dénonçaient à l'époque le soutien présumé du Rwanda au M23. Certaines organisations de la société civile menacent d'organiser des manifestations pour faire pression, notamment sur les autorités rwandaises pour obtenir la libération de ces deux cadres. En plus de ces deux personnalités, nos sources parlent d'au moins 5 autres acteurs qui manquent à l'appel depuis quelques jours. Parmi ces derniers figurent David Mambo, un conseiller municipal de Goma et un conseiller à la cour d'appel de Goma, un artiste musicien et des autres activistes de mouvements citoyens. Elle pointe du doigt accusateur le M23 comme présumé kidnappeur de ces personnes.
Et puis ce message de l'association Bana Est ayant son siège à Kinshasa, elle se félicite de la mobilisation de la population congolaise en faveur des FRDC et des populations victimes de la guerre dans la partie est du pays. Pour l'un des animateurs de cette structure, cette mobilisation témoigne de l'unité et de l'amour entre Congolais. Toutefois, Destin Kandundao estime qu'il serait important que les fonds réunis en faveur des forces armées de la RDC et de la population soient bien canalisés. Il considère que cela devrait permettre de mettre en place des actions efficaces qui répondent aux besoins réels de la population pendant cette période aussi critique. Il intervient au micro de Ronly Ntibonera.
Nous avons jugé de faire cet appel en fait que ceux qui vont contribuer au Maniema, par exemple, ceux qui vont contribuer dans les Grands Katanga, ceux qui vont contribuer dans les Grands Équateurs, ceux qui vont contribuer partout ailleurs dans le pays, de voir comment mettre ensemble ces fonds, ce qui est destiné aux militaires, soit canalisé à partir du service de CECAS, et ce qui est destiné à la population, soit canalisé au service public du FPNCS, étant donné que ces deux structures, ce sont des structures qui sont mieux placées pour la question, et ce sont des structures également qui s'occupent de la vulnérabilité sociale et chez les militaires et chez la population civile congolaise.
Ngazi, dans le territoire de Beni, village fantôme, cette contrée à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Beni est complètement vidée de ses habitants depuis 4 jours, ce après une série d'attaques d'un groupe armé non encore identifié contre des positions de la milice Union des Patriotes pour la libération du Congo. La société civile locale plaide pour l'intervention des forces armées congolaises en vue de rétablir la paix dans cette région du Nord Kivu. Marc Marofimbo pour plus de détails.
La société civile du groupement de Bassomadio précise que c'est depuis 2 semaines qu'un groupe armé non encore identifié a lancé une série d'attaques contre les positions de la milice Union des Patriotes pour la libération du Congo IPLC dans le village d'Engazi et de ses environs. Les dernières attaques ont été signalées le week-end dernier. Le bilan provisoire est de 6 miliciens de l'IPLC tués selon nos sources. Conséquence, les habitants ont fui d'Engazi pour aller vivre à Kantine et Mabalako, des localités voisines situées à une dizaine de kilomètres de là. Ce mardi, on signalait une nouvelle attaque d'une position de l'IPLC à Mabanga, tout près de la rivière Ebiena, à la limite entre les territoires de Beni et de Mambasa. Cette situation inquiète la société civile de Bassomadioué. Justin Kavala Mipaluku, son président, demande aux forces de défense d'intervenir pour rétablir la paix dans cette région et épargner ainsi des vies humaines. Nos efforts pour avoir la réaction des autorités compétentes dans la région à ce sujet sont restés vains. Signalons que le village d'Engazi est une entité agricole et minière dans la partie ouest du territoire de Beni. Marc Marofimbo, Beni, Radio Kapi.
La MONUSCO Beni va accompagner le nouveau gouverneur du Nord Kivu dans l'exercice de ses fonctions. Le chef du sous-bureau de la MONUSCO Beni l'a affirmé hier mardi à l'issue de sa toute première rencontre avec le nouveau gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Somo Kakule, gouverneur installé provisoirement dans la ville de Beni. Selon Abdourahmane Kanganda, la mission onusienne travaillera main dans la main avec le gouverneur dans le cadre de la protection des civils. Il est au micro d'André Kitenge.
Nous avons déjà exprimé vraiment notre compassion à l'ensemble de nos frères et sœurs congolais au nom de la représentante spéciale de l'ensemble du système des Nations Unies ici et au nom du bureau de Beni. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons élaboré notre méthode de travailler ensemble pour protéger la population. Les FRDC, la force de la MONUSCO dans sa globalité, la PNC, plus le gouverneur vont travailler ou continueront à travailler main dans la main pour protéger la population dans le Grand Nord. Nous avons élaboré, nous avons exposé au gouverneur le plan que nous avons. Il a accepté, il a apporté tout son appui. Et le troisième point, nous allons accompagner le gouverneur et l'ensemble des services pour bien s'installer à Beni. Notre souhait est qu'il puisse retourner le plus tôt possible à Goma, prendre ses fonctions. Mais en attendant, ensemble, nous allons créer les conditions logistiques pour qu'il puisse travailler.
Du côté de l'Ituri, 10 personnes tuées, des maisons incendiées, de biens pillés, bilan encore provisoire de l'incursion mardi des rebelles des ADF dans la partie sud du territoire d'Irumu. D'après des sources sur place, ces chiffres portent à 100 le nombre de civils tués en l'espace de 4 jours dans cette zone où des opérations militaires sont pourtant en cours. Du coup, la société civile locale et des notables communautaires parlent d'inefficacité des opérations conjointes contre les ADF. Ezekiel Bouzaïla.
C'est depuis environ 4 jours que les rebelles des ADF ont intensifié les attaques contre les civils, en majorité des agriculteurs ainsi que des retournés dans la partie sud du territoire d'Irumu sur la route nationale numéro 4 entre Komanda-Luna. Selon des sources locales, ces rebelles sont venus de la forêt mardi par des petits groupes pour s'attaquer aux civils. Ils ont surgi en tirant plusieurs coups de feu, ce qui a créé une panique générale dans 3 localités voisines dont Kangatiro, Butumai et Lulueba à Ido au centre. Les sources sécuritaires avancent un bilan de 9 civils brutalement tués dans leur champ, dont 3 pygmées abattus sur place à l'armée blanche. Ce bilan pourrait s'alourdir, prévient la société civile, qui explique que plusieurs personnes sont portées disparues. 4 autres corps des civils tués par ces mêmes ADF ont été retrouvés la veille dans les villages de Kazaro, à l'ouest de Bouanassoura. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, indique que 100 civils ont déjà perdu la vie depuis le début de cette semaine dans cette zone. Nous n'avons pas réussi à joindre le porte-parole des opérations conjointes ni l'administrateur du territoire d'Irumu à ces sujets. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Et puis cet appel du commissaire provincial de la police nationale congolaise en Ituri, la situation sécuritaire au Nord Kivu doit beaucoup éveiller la conscience des policiers à jouer parfaitement leur rôle de garantir la protection des civils en Ituri. Message lancé mardi par le général Ngoï Sengeloa au cours d'une parade organisée au terrain Kindia dans la ville de Bounia. Il a appelé les commandants de différentes unités de la police à jouer efficacement leur rôle qui est de protéger la population. Pour lui, tous les moyens sont mis en place pour contenir la menace de l'ennemi. Enfin, il appelle la population à continuer à collaborer avec les services de sécurité pour étouffer tout plan de déstabilisation de la ville. On écoute le général Ngoï Sengeloa, joint au téléphone par Ezekiel Muzalia.
Quand le Nord Kivu est touché directement, Ituri est vidé parce que nous sommes une province voisine. Nous devons affûter nos armes pour sécuriser davantage la population de l'Ituri. Nous voyons ce qui se passe au Nord Kivu, donc il faudrait pas que nos policiers disent qu'ils n'étaient pas au courant. Nous voyons ça. Et par rapport à ce que nous voyons, nous devons mettre nos hommes en alerte maximale. Le plus souvent dans une crise, ce n'est pas toujours les difficultés techniques, mais c'est l'impréparation des esprits. Si les esprits sont préparés, on peut faire quelque chose. Pour nous, c'est de considérer cette population comme partenaire et que la population considère la police comme partenaire. Avec un partenaire, on échange. Voilà, tout ce que nous demandons, c'est la collaboration.
Un conflit foncier vient d'éclater entre la ville de Kikwit et le territoire de Bulungu dans la province du Kwilu, lequel conflit qui risque d'occasionner des actes de violence entre les deux entités. Selon le chef de division provinciale de l'intérieur et sécurité, la ville de Kikwit a traversé les limites séparant ces entités telles que prévues sur la carte, cela notamment à cause de l'expansion de cette ville. André Djipoy qui indique que cette limite doit être respectée jusqu'à nouvel ordre. En attendant l'intervention des techniciens du niveau national, il invite les deux parties en conflit au calme. André Djipoy, chef de division provinciale de l'intérieur et sécurité du Kwilu, l'a dit à Irène Mboma Luzolo. Suivez.
Le conflit entre la ville de Kikwit et le territoire de Bulungu, c'est un conflit réel. Vous savez, quand vous êtes à Kikwit, vous dépassez Kikwit 3, la petite rivière là qui est juste un pont qui est là avant de monter, c'est ce qu'on appelle Kikwit 4. La ville de Kikwit s'arrête là. Sur le papier, c'est ça qui est dit. Alors maintenant, quand Kikwit, ou les communes de Kikwit traversent pour aller de l'autre côté de ces petits ruisseaux-là, ils sont déjà dans le territoire de Bulungu, dans le secteur Kibuka. De l'autre côté, il y a aussi ce conflit entre le territoire de Bulungu à travers le secteur Imbongo et la ville de Kikwit. Moi, je comprends qu'avec l'expansion de la ville de Kikwit, on a tendance à avancer, à aller vers le territoire voisin. C'est ça qui crée ces conflits-là. Les limites entre entités, ce n'est pas que vous vous réveillez un matin comme ça, vous créez votre limite. Non, non. Les limites sont créés à partir des actes qui créent ces entités. Il faut d'abord respecter ça, à moins qu'il y ait changement. Mais sinon, pour l'instant, il faut s'arrêter là où la loi vous demande de vous arrêter. Il faut que les gens se calment avant que Kinshasa prenne une dernière décision. Mais je demande aux deux entités de garder le calme et que le travail technique se fasse.
Santé, l'humanité célèbre le 4 février, la journée mondiale contre le cancer. Cette maladie continue de faire de nombreuses victimes à travers le monde. Faute de dépistage précoce et de moyens financiers, de nombreuses personnes en meurent en RDC. Pourtant, il est possible de guérir du cancer. C'est ce qui ressort de la cérémonie de ce mardi à l'INPSS à Kinshasa. Elle a réuni le ministère de la Santé et plusieurs structures de lutte, notamment la LINAC, le Centre national de lutte contre le cancer, le 199, ainsi que la Fondation Roche. Nancy Tambo, Gloria Lutula, Élise Kavira pour le reportage.
Le cancer reste curable quand il est diagnostiqué à temps, d'où la nécessité de se faire dépister tôt et dans des structures appropriées. En République démocratique du Congo, la prise en charge du cancer repose dans la majorité des cas sur des familles, ce qui finit souvent par l'essoufflement financier de celles-ci. Pour améliorer l'espérance de vie, le docteur Timpi, directeur intérimaire de la Ligue nationale anti-cancer, estime qu'il faudrait renforcer la prise en charge et augmenter la couverture de la santé universelle.
Pour améliorer cette espérance de vie, il nous faut lutter contre ces maladies qui dévorent la population. Le cancer en fait partie. Et la Ligue nationale, l'objectif qu'elle a, c'est de faire en sorte que cette maladie puisse être prise en charge. Une prise en charge globale, gratuite, à 100%. Ça doit être une détermination de tout moment.
Karina Nikia, survivante du cancer, apporte une lueur d'espoir aux autres malades.
En 2022, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. J'ai suivi la chimiothérapie à l'étranger pendant 6 mois. Essoufflée, je suis rentrée à Kinshasa. Notre plaidoyer ici serait que, avec le programme de la santé universelle, que les examens soient également pris en charge.
À travers son secrétaire général présent à ce programme, le ministre de la Santé a promis son appui aux structures qui luttent contre cette maladie.
Le VIH-Sida, un véritable problème de santé publique dans la province de la Tchopo. Plus de 14 100 personnes sont affectées par cette pandémie et placées sous antirétroviraux. Le secrétaire exécutif du PNMLS dans la Tchopo l'a relevé ce jour à Radio Okapi au cours d'une interview sur l'état des lieux de cette pandémie dans cette juridiction. D'après Madame Christine Sefou, secrétaire exécutif provincial du PNMLS Tchopo, chez les jeunes, la situation est encore plus qu'alarmante, faute de sensibilisation.
Actualité internationale.
Au Burundi, 5 médecins généralistes sont aux mains du Service national de renseignement. Depuis plusieurs jours, ils sont accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État pour avoir réclamé des augmentations de salaire dans les structures médicales privées où ils prestent certains à mi-temps, d'autres à temps plein. Jusqu'ici, un médecin généraliste engagé à temps plein dans un hôpital ou une clinique privée au Burundi touche environ 170 $ par mois, autant que dans le secteur hospitalier public.
L'invité
de Radio Capi est Maître Carlos Nguapichi, avocat de Jean-Jacques Wondo, cet expert militaire belgo-congolais libéré hier par la justice militaire, condamné en première instance, puis en appel à la peine de mort. Jean-Jacques Wondo est enfin libre et séjourne en Europe pour suivre des soins de santé. Rappelons que cet expert militaire est poursuivi par la justice militaire congolaise pour sa participation présumée dans l'affaire de la tentative de coup d'État manquée le 19 mai à Kinshasa. Pour parler de sa libération, Radio Capi reçoit son avocat, Carlos Nguapichi, s'entretient ici avec Jeff Ngoy.
Maître Carlos Nguapichi, bonjour.
Bonsoir, Monsieur Jeff Ngoy.
Par quel mécanisme votre client, Jean-Jacques Wondo, a-t-il été libéré alors qu'il a été condamné à la peine de mort en appel par la haute cour militaire et qui ne s'est pas pourvu en cassation? Par quel mécanisme il peut recouvrer aujourd'hui sa liberté?
Alors, pour répondre à votre question rapidement, je vous rappelle que l'arrêt rendu par la cour militaire de Kinshasa Gombe est intervenu le 26 janvier 2025. Ce qui signifie que le pourvoi en cassation en matière pénale a un délai de 40 jours. Aujourd'hui, nous sommes les 4 février, donc Jean-Jacques Wondo est encore dans les délais de ses pourvois en cassation. Alors, s'il a été libéré, il faut noter que c'est suite à son état de santé. Les autorités pénitentiaires et politiques du pays ont apprécié notre demande qui date depuis très longtemps. On attendait les rapports de différents médecins qui ont effectivement confirmé que son état nécessitait un transfert dans un centre hospitalier de la place soit à l'étranger pour des soins appropriés. Troisièmement, l'arrêt qui a été rendu n'est pas irrévocable. C'est un arrêt qui est susceptible de voir des recours, entre autres la cassation et pourquoi pas la révision. Et donc à ce titre, Jean-Jacques Ondo peut toujours bénéficier de la liberté provisoire ou soit peut toujours être transféré dans un centre hospitalier de la place ou à l'étranger pour suivre des soins.
Carlos Nguapichi, votre client Jean-Jacques Ondo a été déchargé par plusieurs témoins lors du procès en première instance, comme on appelle. Est-ce pour dire qu'il reste innocent?
Jean-Jacques Ondo, il estime qu'il est effectivement innocent dans la présente affaire. Et donc, il reste disponible pour affronter la justice jusqu'à ce qu'il sera totalement lavé parce qu'il est effectivement innocent.
Est-ce que maître, la politique l'a emporté sous le droit, comme vous disiez lors de sa condamnation en appel, qu'il s'agissait juste d'un acharnement politique?
Alors, la thèse selon laquelle le procès de Jean-Jacques Ondo était politique se justifie par le fait que nous sommes devant un juge où le ministère public n'apporte aucune preuve établissant la culpabilité du prévenu. Mais vous êtes surpris par sa condamnation. Et donc, nous sommes en droit de considérer que ce procès-là devient politique. C'est comme qui dirait, un juge politique condamne même en cas d'absence de preuve, alors qu'un juge judiciaire acquitte en cas d'absence de preuve.
Est-ce que cette libération est-elle assortie des conditions? Après les soins de santé, votre client va-t-il retourner au pays pour poursuivre son affaire devant la Cour de cassation?
Monsieur Jeff Ngoy, il faut noter que les prévenus ou les détenus qui sont à la prison sont à la disposition des autorités pénitentiaires. Et à ce titre, lorsque l'un d'eux tombe malade, ces derniers ont le pouvoir, ensemble avec l'auditorat, de pouvoir transférer les détenus, disons, devant un centre hospitalier pour les soins. Mon client est toujours à la disposition de la justice congolaise et à chaque fois que cette dernière aura besoin de lui, il viendra pour continuer à se défendre. Et donc, dans les cas d'espèce, comme il va se pourvoir en cassation, mon client reste disponible et il va comparaître devant la Cour de cassation parce qu'il est innocent et il n'a pas peur d'affronter notre justice. Voilà.
Maître Carlos, je vous remercie.
Voilà, c'était Maître Carlos Nguapichi, avocat de Jean-Jacques Ondo, expert militaire belgo-congolais, libéré hier par la justice militaire ici à Kinshasa. Et c'est la fin de ce journal. Au nom de Martin Sebujangwe, Blaise Chindani et Polydor Basunga, je vous dis merci de nous avoir suivis.